Bonjour, Morgane sur CFM, dans l'émission « Les hommes sont des animaux comme les autres », l'émission mensuelle consacrée aux animaux et aux thérapeutiques naturelles. Aujourd'hui, Valérie Proust, praticienne en fleurs de Bac, va nous parler des bourgeons bénéfiques pour les problèmes féminins et masculins en gémothérapie. L'espèce menacée du mois est le dauphin rose d'Amazonie, un mammifère marin rare et bien particulier. rejointe sur CFM dans l'émission Les hommes sont des animaux comme les autres. On poursuit avec Valérie Proust sur la gémothérapie. Bonjour Valérie.
Bonjour Morgane.
Donc de quoi on va parler ce mois-ci ?
Alors aujourd'hui on abordera le niveau féminin masculin, donc tout ce qui correspond au système problème hormonaux, problème voilà. Donc en commençant par les règles rouges qu'on a vu dans d'autres voilà.
Ça sert à plein de choses celle-là.
Oui mais elle est vraiment. Moi j'étais assez épatée de la des champs d'action des bourgeons. Vraiment c'est très intéressant. Et là on a vraiment un bourgeon qui intervient sur les problèmes de règles, les irrégularités menstruelles chez les femmes, évidemment chez les femmes. Sur les irrégularités ou les absences, voilà, dans les troubles, au moment de la ménopause aussi, elle va diminuer les bouffées de chaleur. Quand on est avec les personnes qui se retrouvent avec des kystes, des fibromes, etc. Donc c'est tout, toute cette sphère-là. Pour lesquelles elle intervient.
Ouais, ça régule vraiment au niveau hormonal en fait.
Oui, tout à fait.
C'est vrai que ça peut-être aussi ça peut être intéressant pour les juments qui ont des problèmes ovariens parce qu'on retrouve aussi pas mal des juments qui ont des douleurs au niveau des cycles quand elles sont en chaleur.
Oui, tout à fait.
Qui ont mal au ventre et tout ça.
Là, c'est vraiment c'est un régulateur vraiment. Et elle est également efficace pour les problèmes post-ménopausiques.
Je sais pas rigolo. Si ça se dit, mais
moi non plus,
mais ménopause, non?
Voilà, tout simplement, oui, je me suis pas arrêtée à temps. En tout cas, vous m'avez compris. Parce qu'elle fixe le calcium pour éviter, elle permet de fixer le calcium et là on évite l'ostéoporose.
Ouais,
c'est en prévenant justement ce genre de problème.
Ouais.
Alors elle a des effets aussi pour les hommes. C'est la générosité de la plante. Et là c'est un tonifiant prostatique pour l'homme. Voilà. Donc c'est à savoir, c'est très très intéressant.
Ouais.
Alors on a la plante par excellence, le bourgeon par excellence pour les problèmes hormonaux féminins, c'est le framboisier. Là on est dans la théorie des signatures parce que la framboise ressemble à un ovaire garni des ovocytes. Voilà, et donc c'est vraiment le bourgeon principal du système hormonal.
D'accord.
Elle régule la sécrétion des œstrogènes et de la progestérone et permet vraiment de réguler les problèmes de flux menstruel féminin. On peut y penser aussi chez les toutes jeunes filles, les adolescentes qui ont leurs premières règles et qui vraiment sont avec des cycles irréguliers. Voilà, donc s'il y a des débuts de règles douloureuses, etc., pensez au bourgeon, à la framboise ou au framboisier ou à l'RL, voilà, en fonction
du type de problème.
Voilà. Le framboisier permet aussi vraiment profondément de réguler les saignements, les flux en eux-mêmes.
Ouais.
Voilà. Donc c'est vraiment la plante, le bourgeon de la femme.
Par excellence.
Voilà. Je parlerai également du séquoia. J'en avais parlé tout à un autre moment pour son action tonique, etc. Mais il est vraiment régulateur du système hormonal également parce qu'il le stimule. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il aide, il agit sur le. Il a des propriétés spermatogénèse. Voilà, donc ça a une action de décongestion de la prostate pour l'homme.
Oui.
Et dans les gens qui ont des problèmes, les hommes qui ont des problèmes au niveau de la qualité, de la quantité spermatozoïde, ça intervient de plus en plus. C'est vraiment quelque chose qu'on constate de plus en plus.
Oui.
Et du coup, c'est un booster.
D'accord.
Voilà. Il aide également à normaliser aussi les règles chez les femmes et à passer la. Oui, il intervient du fait sur le passage de la transition de la ménopause chez la femme. Voilà.
D'accord.
Donc c'est un grand arbre auquel il faut penser. Voilà, pour différents moments de la vie.
Oui.
voilà, ça c'est après on a aussi j'avais parlé à un autre moment du noisetier mm-hmm. qui a des propriétés hormonales. Oui. Voilà, il y a d'autres plantes hein, donc oui, je rappelle toujours utiles. qui ont souvent une deuxième action oui. Sur soit la thyroïde, soit sur voilà les glandes mm-hmm. endocrines, donc à voir et à tester.
Faut faire attention aussi, ouais.
Voilà, mm-hmm. rajouter dans les voilà dans le suivi et voir ce qu'on peut en faire pour soi-même.
Oui.
Voilà ce que je voulais dire.
Et ben merci Valérie.
Merci Morgane.
Au revoir.
Au revoir.
Ce mois-ci, j'ai choisi de vous parler de l'une des 5 espèces de cétacés parmi les plus intelligentes au monde et qui est menacée d'extinction, le dauphin rose d'Amazonie. Il est aussi appelé Boto ou Ini de Geoffroy, Inia geoffrensis de son nom latin. C'est un mammifère de l'ordre des odontocètes. C'est un dauphin d'eau douce et il est également le plus grand de tous les dauphins de rivière. Il peut facilement atteindre la taille de 2,80 m et peser jusqu'à 150 kg. Sa coloration varie du gris sombre au rose le plus éclatant. Son rostre ou museau est couvert de vibrisses, qui correspondent aux moustaches des mammifères et sont utilisées pour percevoir des vibrations ou pour toucher des objets. Les vertèbres cervicales ne sont pas soudées contrairement aux autres dauphins marins, ce qui lui donne une mobilité exceptionnelle. Il peut ainsi pivoter à 90 degrés, ce qui lui permet de se faufiler entre les arbres de la jungle aquatique. Il a des dents différenciées qui lui permettent de manger certains gros poissons. Il possède de petits yeux, mais l'écholocation lui permet de repérer des proies avec précision dans l'eau sombre. Le boto est un véritable fossile vivant. Il a conservé l'aspect des premiers dauphins du tertiaire. Il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, il a quitté l'océan salé pour remonter peu à peu les fleuves et s'adapter à la vie en eau douce. Il vit maintenant dans l'Amazone et l'Orénoque, deux des fleuves ayant le débit le plus important au monde. L'Orénoque est un fleuve du Venezuela et de Colombie, comprenant une superficie de 25 000 km². Il prend sa source dans la Sierra Parima, le plateau des Guyanes, et se jette dans l'océan Atlantique. L'Amazone, lui, couvre 6 112 000 km², soit 40% de l'Amérique du Sud et l'équivalent d'une fois et demie la surface de l'Union européenne. Il est à lui seul à l'origine de 18% du volume total d'eau douce déversée dans les océans du monde. Le bassin de l'Amazone contient environ le quart de toutes les espèces animales répertoriées sur la planète et bien d'autres encore qui restent à identifier. Dans les eaux sombres de l'Amazone et de l'Orénoque, la jungle est inondée chaque année pendant 6 mois. Elle se transforme alors en une étrange forêt aquatique où les poissons volent de branche en branche pour attraper des fruits et des baies entre les feuilles de la canopée. La loutre géante vit aussi dans cette jungle engloutie, ainsi que le caïman, le lamantin et le piranha, qui est sur la liste du menu du dauphin rose. Celui-ci se nourrit également de poissons-chats et d'une cinquantaine d'autres poissons et crustacés. Les dauphins roses ont malgré leur apparence préhistorique des capacités intellectuelles très pointues et sont capables de s'adapter très vite aux nouveaux défis que leur impose la pression croissante de notre espèce sur leur biotope d'origine. Ils présentent autant d'intelligence et de curiosité que le dauphin Turciops, dont ils possèdent le même coefficient cérébral. Son encéphale extrêmement développé est de 40% supérieur en volume à celui de l'être humain. Il émet des sifflements et cliquettements comme tous les autres odontocètes, mais produit des sons atypiques qui font l'objet d'études aujourd'hui. Longtemps réputé solitaire ou peu sociable et incarcéré seul à ce titre en delphinarium, le dauphin rose vit en fait au sein de groupes familiaux de taille variable, 5 à 8 individus, apparemment placés sous la guidance d'un mâle dominant. Pendant la saison des inondations, le boto chasse seul, indépendamment de son groupe, mais le reste du temps, les familles se regroupent en plus vastes tribus, de 35 jusqu'à plus de 100 dauphins parfois, qui pêchent alors en coopération dans des eaux profondes et dégagées. C'est à cette occasion qu'on les aperçoit accompagnés d'une autre espèce de dauphin d'eau douce, les charmants petits Tukushi. De couleur grise, ceux-ci sont de taille beaucoup plus réduite et leur forme évoque un peu celle du Turciope en miniature. Vifs et craintifs, ne circulant qu'en bande et familiers des profondeurs, ils vivent indifféremment dans l'eau de mer ou l'eau douce où ils chassent en groupe bien coordonné. On les aperçoit souvent aux côtés de leur grand frère Boto, se déplaçant côte à côte en parfaite harmonie. Les bébés dauphins de ces deux espèces jouent couramment ensemble durant les heures chaudes de l'après-midi, ainsi que le font les jeunes babouins et chimpanzés. La gestation du boto dure environ 11 mois. La mère met un seul petit au monde qui mesure environ 70 à 80 cm de long et elle l'allaite pendant plus d'un an. Les naissances sont espacées de 2 à 3 ans. De nombreuses menaces pèsent sur cet extraordinaire animal. Les pêcheurs les tuent, mais ils sont aussi mis en danger avec les incendies incessants qui ravagent toute l'Amazonie, l'exploitation forestière, les barrages, la surpêche, la pollution, l'érosion des rivières ou encore les explosions provoquées par les prospecteurs industriels dans la région. Le dauphin est ainsi considéré comme espèce vulnérable par l'Union pour la conservation de la nature, l'UICN. Les pêcheurs ont commencé à tuer les dauphins roses alors qu'ils se noient déjà bien trop souvent dans les filets de pêche, car ils utilisent les fragments de leur corps comme appât pour les poissons-chats. On pense que c'est un pêcheur colombien qui a fait découvrir à ses compagnons de travail cette technique nouvelle. Il suffit de plonger des ossements de boto dans la rivière où leur forte odeur attire aussitôt les poissons-chats. Un pêcheur vétéran affirme « Nous n'aimons pas cet animal. Nous sommes ses ennemis. J'en ai un jour tué un lorsque j'étais en train d'essayer d'attraper des poissons. Il ne cessait de tourner autour de mon bateau et tous les poissons se sont enfuis. Alors je l'ai harponné. Je ne peux plus les supporter, ces dauphins. » « On veut gagner de l'argent », déclare le chef du village. « Deux dauphins morts peuvent rapporter dans les 2 400 $, soit environ 1 700 €, en poisson-chat pour une seule journée de pêche », explique-t-il. Il y a une dizaine d'années, la surpêche du capaz, un poisson très apprécié en Colombie, a provoqué l'effondrement des réserves et la quasi-disparition de l'espèce, explique Fernando Trujillo, le directeur scientifique de la fondation Omacha, une association écologiste de Bogota. Pour le remplacer, les professionnels du poisson et les marchands se sont tournés vers le piracatinga, le poisson-chat du Brésil. Le consommateur n'a aucune idée de ce qu'il achète et consomme, déplore Monsieur Trujillo, et il se doute encore moins qu'on tue des dauphins pour attraper ce poisson. Le dauphin rose est pourtant protégé par la loi brésilienne relative à l'environnement. La mise à mort d'un seul spécimen d'une espèce qui ne compte plus que 30 000 individus, tous concentrés dans l'Amazone, est strictement illégale. Ceux qui les tuent peuvent encourir jusqu'à 4 ans de prison. Même si les dauphins roses sont protégés, les pêcheurs les considèrent comme des concurrents pour la pêche qui nourrit leur famille. Parfois, leur frustration déborde. Michel Migueis, 41 ans, un chercheur portugais de l'université de Western Pará, attaché à l'étude des dernières populations de dauphins de rivière aux alentours de la ville de Santarém, n'hésite pas à affirmer que les pêcheurs sont en train de massacrer non seulement leur propre culture, le symbole historique de l'Amazonie, mais aussi le fleuve Amazon lui-même. Il lance ce cri d'alarme, les pêcheurs sont en train de pousser le dauphin rose vers l'extinction définitive. Le massacre des dauphins est en effet en augmentation dans la région. Selon les chercheurs et les autorités, des centaines, sinon des milliers de dauphins, parmi les quelques 30 000 dauphins peuplant la région de l'Amazone, meurent chaque année. Dans la réserve de Rio Trombetas, un affluent de l'Amazone où les dauphins voisinent avec des hordes de piranhas et de crocodiles, Migueis déclare avoir vu la population de dauphins passer de 250 en 2009 à juste un peu plus de 50 individus au début de l'année 2011. Mais les pêcheurs et les autres habitants des villages côtoyant le fleuve ont faim. Ils feraient n'importe quoi pour se nourrir. L'immensité du fleuve, plus vaste que l'Inde, soulève un défi de taille pour les 1300 agents de l'IBAMA, l'agence brésilienne de l'environnement chargée de surveiller les activités des pêcheurs. De plus, ainsi que le souligne le New York Times, les résidents locaux se montrent indifférents au sort des dauphins roses. Pire encore, au marché en plein air de Santarém, des vendeurs proposent aux clients les organes sexuels desséchés et prélevés sur des dauphins morts en tant que charme pour l'amour et le sexe. Des jarres entières remplies d'huile de dauphin, de rivières trônent aux côtés d'autres, pleines de graisses d'anaconda ou de crocodiles. L'huile de dauphin rose est utilisée comme médicament. Une seule bouteille, vendue au prix de $25, est supposée guérir les rhumatismes, comme le prétend l'un des commerçants. La Bolivie a toutefois décidé de réagir face à la vulnérabilité du dauphin rose. Lors d'un déplacement dans la région de la rivière Ibar, dans la partie bolivienne de l'Amazonie, au pays même du Boto, le président bolivien, Evo Morales, a en effet annoncé la promulgation d'une loi destinée à protéger cet animal, qu'il a même érigé au rang de trésor national. Grâce à celle-ci, la capture de ces dauphins est désormais interdite et les programmes de protection du cétacé et de son habitat seront encouragés. Selon la Convention sur le commerce international des espèces menacées, la CITES, le mammifère serait surtout menacé dans tous les pays qui recouvrent son habitat, Bolivie, Brésil, Pérou, Colombie et Venezuela, par la contamination des cours d'eau par le mercure utilisé dans des opérations d'orpaillage illégales, l'exploitation sauvage des gisements d'or. Such a lonely day, and it's mine. The most loneliest day of my life. Such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. The most loneliest day of my life. The most loneliest day of my life. Such a lonely day shouldn't exist. It's a day that I'll never miss. Such a lonely day, and it's mine. The most loneliest day of my life. Go, I wanna go with you. And if you die, I wanna die with you. Take your hand and walk away. The most loneliest day of my life. The most loneliest day of my life. Such a lonely day, and it's mine.
day that I'm glad I survived.
C'était Morgane sur CFM dans Les hommes sont des animaux comme les autres. Je vous quitte avec une citation de Socrate. La chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester où on est tombé.
La mitraille, cette plaie qui nous tiraille.